Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. À l'occasion de la sortie du livre « Moi, Julia » de l'écrivain espagnol Santiago Posteguillo aux éditions du Cherche Midi, je vous propose un épisode spécial sur Julia Domna. Moins connue qu'une Agrippine ou une Messaline, Julia Domna occupe pourtant une place centrale dans l'histoire de l'Empire romain, car elle fut à la fois l'épouse de l'empereur Septime Sévère et la mère de Caracalla, figure emblématique de la Rome décadente. Qui était-elle? Quelle fut sa vie? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode en deux parties. Le grand prêtre Julius Bassianus s'avance lentement entre les colonnades du temple. C'est l'heure de célébrer le culte à El Gabal, le dieu soleil, incarné par la pierre noire qui trône au centre du sanctuaire. Dehors, la chaleur écrase tout. L'air danse au-dessus de l'horizon. Le désert syrien, en ce mois de juin 174, semble encore plus figé que d'ordinaire. Bassianus est paré de ses vêtements sacerdotaux. La soie brocardée d'or est incrustée de pierres précieuses. Sur ses avant-bras, il porte les ornements dont il va revêtir la pierre noire, objet de culte pour tous les peuples de la région. À l'entrée du temple, sa fille Julia, âgée d'une quinzaine d'années, est aussi resplendissante que son père dans ses apparats de tissus précieux. Sur son front, elle porte une couronne d'or incrustée de rubis. L'instant est solennel. Le culte rendu à la pierre noire est sacré entre tous. Cette pierre que l'on appelle Béthyl est, dit-on, tombée du ciel comme la foudre. Sur son sillage, l'air s'est embrasé. Elle est un don du soleil. Sur sa forme conique, d'étranges dessins sont tracés, formant des lignes courbes, parallèles, que seuls les mages de Phénicie ou les sibylles de Grèce peuvent interpréter. Depuis son enfance, Julia a toujours été associée à ce culte que préside son père. Elle a conscience de la place qu'elle occupe dans l'ordre social de la région. Et ce rituel auquel elle participe aujourd'hui a prouvé sa force en s'imposant face aux décisions impitoyables venues des empereurs romains. Ces derniers n'hésitent pas à faire supprimer toute tradition qui peut amoindrir la puissance de Rome. La ville d'Émèse, longtemps indépendante, fait depuis deux siècles partie intégrante de l'Empire. Tibère, dans les années 30, a bien essayé de faire interdire le culte d'El Gabal, en vain. Preuve que le dieu soleil est tout-puissant, puisque même l'empereur romain n'a pu avoir raison de lui. Julia participe certainement comme toutes les jeunes filles d'Émèse aux chants, aux danses et aux transes qui accompagnent le rituel au son des flûtes et des tambourins. La pierre noire à laquelle Bassianus a donné forme humaine par le vêtement dont il l'a couverte est à la fois principe masculin et féminin. Elle rassemble dans sa puissance héritée du soleil toute humanité. Investie des pouvoirs du zodiaque, dont elle a parcouru toutes les constellations pour aller du soleil à la terre, elle contient le devenir de chaque être vivant. Elle est dépositaire du destin de chaque être, les plus misérables comme les plus puissants. La signification d'El Gabal, que les Romains appellent Ella Gabal et les Grecs Elio Gabal, se perd dans la nuit des temps. Julia, initiée comme son père aux mystères anciens, c'est qu'on honore en Phénicie un El Gibil, le dieu feu, celui dont la force transporte les montagnes. Ce dieu, pour elle, se porte garant du destin d'exception auquel elle se sent appelée. Les paroles rituelles lancinante, obsédante, entraîne le peuple de la ville, présent devant le temple, dans une fureur orgiaque. Julia s'y abandonne. C'est l'heure où le feu du soleil répandu sur la terre féconde le sol et donne la vie. Tout être doit se livrer à son pouvoir. Hommes et femmes, revenus pour l'occasion au chaos originel, se livrent à une débauche sans frein qui ne s'achève qu'au petit matin. Julia, qui reste acquise à ce culte immémorial, est aussi fière de son origine syrienne que de ses Romains auxquels son père a prêté allégeance. Ils sont pour lui et pour elle plus qu'une force d'occupation. Ils sont assurément investis de pouvoirs divins, eu égard à leur génie de l'organisation. C'est donc dans un désir sincère d'unir dans son cœur et dans sa lignée la marque de la romanité que Bassianus a tenu à perpétuer le prénom de Julius en hommage au premier César et à latiniser son nom. De Bassian, il est devenu Bassianus. Sa charge de grand prêtre n'en est pas amoindrie, au contraire. Julia, qui s'honore de porter elle aussi le nom des Césars, sait-elle déjà qu'elle est appelée à jouer un rôle dans la prestigieuse lignée des empereurs romains ? À cette époque, les sujets de l'Empire doivent prêter serment à l'empereur et l'honorer comme un dieu. Nul doute que Julia, dont l'existence porte la double tutelle de la royauté céleste et de la royauté terrestre, c'est depuis toute jeune qu'une telle charge la promet à une destinée extraordinaire. Tout en étant initiée au mystère d'El-Gabal, Julia est éduquée comme une occidentale. Son père tient par-dessus tout à ce que sa fille acquiert la culture de Rome. De fait, cette éducation va être très poussée. Pour beaucoup, Julia est une jeune femme d'une extraordinaire finesse d'esprit, curieuse de nature, lectrice des auteurs latins comme des Grecs. De son aspect physique, on ne sait pas grand-chose, à part la représentation qui en est faite sur des pièces de monnaie ou de rares fresques. Sur tous, elle apparaît sous des traits assez lourds, un visage large de type sémite, un nez aquilin, des yeux largement ouverts, au regard avisé, non sans un voile de ruse, la bouche petite et la base de la figure chargée.
Julia était non seulement très belle, mais d'une intelligence remarquable, bien que nul ne s'en rendît compte.
On lui devine le regard noir sous un front volontaire, couronné par les cheveux épais et ondoyants propres à son peuple. Julia est née autour de l'année 160, sans que l'on soit sûr de la date. Elle est l'aînée de deux filles et reçoit le nom de Domna, qui signifie « maîtresse ». La Syrie, où elle est née, a été conquise par l'empereur Pompée en 64 avant Jésus-Christ. À partir de la première moitié du IIe siècle de notre ère, cette région, devenue province romaine, va acquérir une telle importance qu'elle va fournir de nombreux sénateurs à Rome. On reconnaît là la marque de cet empire promis à conquérir le monde. Il sait s'agréger les édiles de tous les pays conquis, quelle que soit leur langue, leur religion, leur tradition. La Syrie occupe une place stratégique dans le monde romain. Placée à l'extrême est de l'Empire, elle constitue un point de bascule idéal pour passer du sud de la Méditerranée au nord, de l'Afrique à la Gaule. De fait, son territoire va rapidement se garnir d'un nombre impressionnant de légions romaines. Lorsque Julia apparaît, elle incarne tout de la jeune femme promise à un avenir radieux. Elle fait partie de la noblesse en vue dans la ville d'Émèse. Son peuple a donné à Rome un certain nombre de notables. Elle est à la croisée de deux mondes auparavant étrangers l'un à l'autre. Le fait qu'elle soit fille du grand prêtre d'El-Gabal lui a valu les critiques acerbes de certains auteurs. Comme sa charge, son rang, la contraignent à participer à des orgies mystiques. Et donc certains l'ont accusée de mener une vie de débauche. Il s'en faut de peu pour qu'ils ne la traitent même de prostituée. Preuve en tout cas qu'une femme qui accède à la gloire excite toujours la haine des hommes. L'historien Jean Bablon a montré l'injustice de ces ragots. Non, le seul tort de Julia, c'est évidemment d'être intelligente, séduisante, puissante et d'être une femme. Durant son adolescence, elle est certainement initiée aux cultes les plus importants du bassin méditerranéen. Ces cultes, dont les mystères d'Éleusis sont certainement les plus secrets et les plus impressionnants, sont communs à la Grèce et au monde oriental. On y célèbre la fécondité, la fertilité, à travers le culte de la déesse Déméter et de sa fille Perséphone. On y célèbre aussi le culte de Dionysos, dieu de l'extase, de l'ivresse, de la transe. Ces rituels, il est vrai, ont en commun des pratiques orgiaques qui ramènent invariablement à celles d'El-Gabal. Or, depuis quelques décennies, les empereurs romains eux-mêmes se sont laissés conquérir par ces croyances. Pour prouver l'importance acquise par ces rites dans la vie de la jeune Julia, il suffit de se tourner vers la nouvelle religion qui est apparue non loin de son pays, en Judée. Depuis plus d'un siècle, en effet, le christianisme se répand partout dans le bassin méditerranéen. Son influence commence à se faire sentir chez les notables. En Syrie, des villes entières sont gagnées par cette nouvelle croyance. Et pourtant, Julia semble rester imperméable à ce tsunami qui s'apprête à se répandre sur le monde entier. Preuve de l'importance que doit avoir sa foi personnelle dans les dieux qui l'ont vu naître. Rien dans la jeunesse de Julia, ni plus tard dans sa vie, ne laisse paraître d'une éventuelle influence du christianisme dans sa vie. La religion de paix et d'amour, de charité et de partage, n'est au centre ni de ses habitudes, ni de ses préoccupations. Mais dans ce monde où le christianisme vient frapper de plein fouet les anciennes idoles, il est compréhensible que la confusion s'installe. Chez les législateurs romains des années 180, on a peine à discerner ce qui vient de l'Évangile et ce qui vient du paganisme. On interdit l'astrologie tout en la pratiquant ouvertement. On persécute les chrétiens qu'on livre à la croix ou au lion. À Lyon, tandis que sainte Irénée et sainte Blandine expirent en martyrs, on condamne les pratiques divinatoires et la magie comme des choses abominables. Les esprits les plus éclairés de l'époque ne comprennent pas du tout pourquoi il est si difficile aux chrétiens de célébrer un culte à l'empereur de Rome. Dans cette pagaille religieuse, Julia, elle, va rester la digne fille de son père. Et c'est dans la consultation des augures et des horoscopes qu'elle scrute son avenir et s'enquiert des bonnes décisions à prendre. Par un de ces hasards qui font croire au destin, un brillant consul vient d'arriver à Émèse. Il s'appelle Septime Sévère. Il a un point commun avec Julia, il croit au pouvoir des astres et au fatum, au destin, à la volonté des dieux. Déjà, quand il occupait la charge de proconsul en Sicile, il a été accusé d'avoir eu recours à l'astrologie. Il risquait sa place. Il a donc fait liquider celui qu'il avait dénoncé. Lorsqu'il arrive en Syrie, il est veuf d'une première épouse, Pacia Marciana, dont il a eu deux enfants. Convaincu qu'il doit consulter les augures pour trouver une seconde épouse, il s'en remet à l'horoscope. Il demande à des astrologues de tirer l'horoscope de plusieurs jeunes femmes choisies parmi la noblesse de la ville d'Émèse. L'une d'elles, selon les augures, est promise à un avenir royal. Il se peut même qu'elle devienne femme d'empereur. Elle s'appelle Julia Domna. Septime Sévère n'hésite pas une seconde, il va rencontrer cette Julia dont il ne connaît encore rien et en faire son épouse. Et ce Septime Sévère, qui s'apprête à prendre pour femme Julia Domna, qui est-il au juste? Quel sera le destin de ce couple? Rome? L'Empire? Les astres tiendront-ils parole? C'est ce que nous verrons dans la seconde partie de cet épisode.